Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, c'est Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma. Nous sommes le mercredi 30 novembre et nous avons une absente et un invité. L'absente, c'est Marine, mais magie de la radio, on pourra quand même l'écouter puisqu'elle a enregistré ses petites chroniques la veille. Et sinon, un invité, donc bonjour Ferdinand Fortes.
Bonjour.
Ou Ferdinand, on va dire, parce que je peux te tutoyer même,
oui,
puisque c'était un peu consanguin, étant donné que tu es très lié à Divergence FM quand même.
Oui, absolument.
Mais que tu es par ailleurs directeur donc, du Festafilm, Festafilm, festival du film francophone et lusophone, c'est comme ça
de
qu'on
Montpellier,
le présente
oui. De festival international du film lusophone et francophone.
Et j'avais oublié international.
Ah voilà. Oui.
Et donc, qui débute demain, ce sera essentiellement Salle Rabelais, mais on va prendre le temps d'en parler. Mais avant, justement, eh bien, de parler de ce festival, on va écouter la première chronique de Marine. Il y en aura deux dans cette émission. C'est le film Time Out d'Andrew Niccol.
Cinérama sur Divergence FM.
Le temps, c'est de l'argent et Time Out exploite le concept au tout premier degré. Dans ce thriller d'anticipation, l'argent terrestre n'existe plus, mais tout se paye grâce à des secondes, des minutes, des heures. Difficulté supplémentaire, la vie des gens se stoppe à 25 ans et à partir de ce moment, ils doivent gagner du temps par tous les moyens afin de rester en vie le plus longtemps possible. Ainsi, les pauvres passent leur temps à courir et à vivre leur vie au jour le jour, tandis que les riches, ayant un capital de temps infini, demeurent à jamais jeunes et beaux.
Juste une fois, j'aimerais avoir plus de 24 heures sur le bras. Où elle reste ?
T'as pas atteint le quota.
Mais ma cadence a augmenté.
Le quota aussi.
Ça fera 2 heures.
Ça a toujours coûté 1 heure.
Maintenant, c'est 2. Tout augmente.
J'en ai pour 2 heures de marche. Je n'ai plus 1h30.
Alors faudra courir. Les pauvres sont condamnés à mourir. C'est le système qui veut ça.
Le principe, qui peut paraître un peu flou, est traité de manière très claire dans le film, et le scénario, quoique sinueux, tient la route jusqu'au bout. Car malgré ses airs de film d'action dopé aux stars, Time Out n'est pas le fait d'un énième Michael Bay. On retrouve aux commandes Andrew Niccol, spécialiste de l'anticipation, puisqu'on lui doit Bienvenue à Gattaca ou le scénario de The Truman Show. Le réalisateur n'est heureusement pas un tâcheron à qui l'on confie des blockbusters à la chaîne, mais un scénariste de talent qui sait de plus entourer des meilleurs. Roger Dedkin, directeur de la photographie attitré des frères Coen, nominé une bonne douzaine de fois aux Oscars, la costumière de Tim Burton qui donne au film une saveur d'expressionnisme allemand et le compositeur de trip-hop Craig Armstrong. En plus de cette équipe technique éclectique et prestigieuse, un casting qui brille, beaucoup sans être vide pour autant, avec un Justin Timberlake assez crédible, le trop rare Cillian Murphy, de 28 jours plus tard, et deux petites actrices qui montent, Olivia Wilde et Amanda Seyfried, à la plastique convaincante sans être lisse. Si comme moi vous n'êtes que moyennement emballé par l'affiche cybernétique sexy ou l'histoire d'amour futuro-relou, sachez que vous ne perdrez pas votre temps en allant voir Time Out, ne serait-ce que pour la métaphore satirique qu'il représente.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne le sais vraiment pas.
Quel âge as-tu en temps réel ?
28 ans.
Moi j'en ai 105.
En réalité, il y a assez de temps pour tout le monde. Certains ont 1 million d'années, les autres vivent au jour le jour. Quelques immortels, beaucoup doivent mourir. Personne ne devrait être immortel, même au prix d'une seule vie.
Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Vous êtes différent.
Venez.
Un comportement suspect a été repéré.
Il s'appelle Will Salas.
Il devrait pas être là.
Qu'est-ce qu'on va faire ? Voler ?
Voler ce qu'il a déjà été, c'est pas voler. Je vais leur faire payer.
La trame majeure du film, selon laquelle concrètement à 25 ans on est fini, illustre au pied de la lettre la loi hollywoodienne et in extenso le leitmotiv de nos sociétés actuelles. Suivant le même principe, les gens ont tous une allure semblable puisqu'ils s'arrêtent de vieillir au même âge. On ne sait donc pas qui sont les mères, les filles ou les sœurs, puisqu'elles sont figées dans leur jeunesse parfaite, ce qui n'est pas sans rappeler certaines dérives de chirurgie esthétique. Il est vrai cependant que l'on ne sait pas toujours si le film dénonce ou s'il cherche à nous faire fantasmer sur cette jeunesse éternelle. L'atmosphère très léchée du film, à la fois rétro et futuriste, ne jouant pas en la faveur d'un discours critique. Time Out est également un film sur la lutte des classes, dans un registre qui dépoussière un peu ce sujet traité au cinéma depuis ses débuts. Ici, les pauvres meurent vraiment de leur manque de richesse sous les yeux des riches. Lorsqu'ils n'ont pas été capables de gagner du temps, ils doivent réellement vivre au jour le jour, chaque journée de travail leur donnant 24 heures de plus en guise de salaire. Un bien beau message de la part d'un film doté d'un budget de 40 millions de dollars. Une somme que je vous laisse convertir en minutes.
Ça vient, ça.
Un millier d'années entre de mauvaises mains, ça paralyserait le système.
Je l'arrêterai.
Le problème, c'est que tout le monde veut être immortel.
On n'est pas censé être immortel.
On vient le chercher. Espérons-le.
Son crime n'était pas de voler du temps, mais d'en distribuer.
Time Out d'Andrew Niccol, qui est sorti mercredi dernier, passe encore dans les cinémas. Il passe méga CGR au Gaumont et puis même, on va le citer, à l'Athénée Lunel. On retrouvera Marine un peu plus tard dans l'émission qui nous parlera de L'Ordre et la Morale, le dernier film de Kassovitz qu'elle a beaucoup moins apprécié. On écoutera aussi la vision du son de Jean-Jacques Hano, je vous l'avais plus ou moins promis la semaine dernière. Et puis on parlera aussi de Bruce Lee, Opération Dragon, ça c'était un reportage que je vous ai ramené du Festival des Trois Continents de Nantes. Et puis on aura peut-être l'occasion aussi d'écouter un petit montage autour de Fight Club, histoire de terminer une espèce de thématique autour de la castagne. Mais tout de suite c'est le Festafilm.
Cinérama sur Divergence FM.
Ferdinand, alors... On est quand même à la veille du Festafilm, même s'il a déjà commencé, hein, parce qu'il me semble que tu as mis en scène Paysage Moral, donc ça c'était plutôt du théâtre.
Oui, Paysage Moral, donc, qui est un assemblage de textes de Carlos Drummond de Andrade, qui est un poète, un éminent poète brésilien donc du XXe siècle, et donc des poèmes mis en scène, dramatisés donc, au carré rondelet. Et qui se donne effectivement ce soir, pour le dernier soir, et qui a joué aussi hier et avant-hier, voilà, à 19h.
Donc le point commun, c'est forcément la langue portugaise.
La langue portugaise,
voilà. Ouais. Et bien, c'est une bonne manière d'ailleurs de parler du festival. Donc lusophone, il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est. Alors on va préciser d'ailleurs ce que c'est que lusophone.
Alors lusophone, c'est la personne qui a pour langue... le portugais, donc c'est l'équivalent donc pour le français de francophone, et pour toute la communauté de langue portugaise, on parle de lusophonie. Alors on me dira pourquoi lusophonie et pas portugophonie ou portugophone. La simple raison que après la révolution donc des œillets en avril 74, il fallait trouver un thème, donc un mot qui regrouperait justement tous ces pays qui ont en commun la langue portugaise, donc toutes ces anciennes colonies portugaises en gros. Et vu que la décolonisation portugaise est la décolonisation la plus violente, hein, il était difficile donc d'utiliser le mot Portugal, un truc qui fait référence directement au Portugal pour ces colonies qui ont dû se battre pour obtenir leur indépendance. Donc il fallait retourner dans l'histoire, trouver un mot qui met tout le monde d'accord, tout le monde au même pied. Donc on est remonté à l'époque où le Portugal était elle-même une colonie, une province de Rome, et elle s'appelait à cette époque donc Lusitania. Mm. Et c'est comme ça que c'est devenu lusophone et lusophonie.
Voilà, donc ça regroupe le Brésil, l'Angola,
le Portugal. Le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, Macao, Madère, São Tomé-Principe et Goa.
Donc, est-ce que ça veut dire, parce que donc, pendant le festival, il y a une compétition de courts-métrages, et puis il y a un panorama aussi de longs-métrages, de courts-métrages, oui. Est-ce que ça veut dire que les films viennent de tous ces pays-là, ou voilà. Alors il y a vraiment des pays qui sont exclus un peu de
non,
ce champ cinématographique?
Non, l'idéal pour nous, ça serait que ça vienne justement de tous ces pays-là, mais jusqu'à présent, on a eu des films, et c'est le cas cette année, donc du Brésil, du Portugal, Angola, Mozambique et Brésil. Voilà, beaucoup de films brésiliens en tout cas. Et ça, au fil des années, donc, on arrive à créer des connexions donc, avec ces autres pays lusophones. Et l'année prochaine, l'accent sera mis par exemple sur le Cap-Vert avec l'aide de l'ambassade du Cap-Vert à Paris. Et voilà, au fil des années, donc, cette connexion entre tous ces pays se fait. Et c'est quelque chose qui, oui, ces films... Ces pays sont représentés en tout cas dans le festival, sont représentés à travers des films documentaires, des longs métrages et des courts métrages. Oui.
Donc ça veut dire aussi que, bon, est-ce qu'il y avait assez finalement de films venant de la lusophonie pour faire le festival? Pourquoi vous avez rajouté finalement les films francophones?
Alors oui, il y avait, ma première question, c'est que oui, il y a suffisamment de films pour faire donc un festival de films lusophones, mais moi, mon intérêt, c'était justement de ne pas faire un festival de films lusophones uniquement, parce que ça se fait déjà donc, à Nice, à Nantes également, et puis à Paris. Et moi, l'idée, c'était de créer un échange, une rencontre entre lusophones et francophones, parce que c'est deux façons d'appréhender la caméra, de raconter une histoire, une fiction, en tout cas au niveau cinéma. Faut savoir que les lusophones s'inspirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup d'adaptations de romans, la plupart du temps. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que nous, dans la programmation, on a deux longs métrages donc, qui sont adaptés directement de textes de José Saramago.
Mmh. On va en parler tout à l'heure.
Voilà, donc c'est beaucoup d'adaptations, c'est une façon différente de filmer. Et puis c'est surtout, je pense, deux cultures qui, donc francophones, je parle bien au niveau cinématographique, hein, et puis même on peut dire de façon générale, qui se connaissent très peu. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est permettre aux francophones de découvrir ce que c'est que la lusophonie par le biais du cinéma, en tout cas, et puis à partir de cette année, par le biais aussi de spectacles, de conférences ou d'expositions, d'où les activités qu'il y a en amont du festival. Donc l'idée, c'était ça. Et je suis moi-même francophone et lusophone. Voilà, et je trouve qu'il y a près de 1 200 000 luso-descendants en France. Donc, c'est des personnes qui sont nées en France, mais qui sont d'origine lusophone ou brésilienne ou portugaise, surtout portugaise. Et ce festival est aussi un clin d'œil à toute cette population, à la fois lusophone et francophone.
Eh bien, on va parler de la programmation. L'ouverture, alors, se fera demain à 17h30, on va en parler après. Mais il y a aussi un long métrage à 20h40, c'est le film de Fernando Méreyes, justement adapté de José Saramago, effectivement un roman. Ce film s'appelle Blindness, il était sorti en 2008.
Il avait fait l'ouverture du festival, en 2008,
à Cannes. Et il est avec Julianne Moore, c'est un film palpitant, plutôt bien réussi. Ouais. Et on écoute un extrait.
Tu t'es levé avant que le réveil sonne?
Ouais.
Bonjour.
Je doute que ce soit un bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je vois rien.
Quoi?
J'ai l'impression que le patient que j'ai vu hier devait être contagieux.
Quoi? C'est impossible? Laisse-moi regarder. Attends. Ouh. Je vois rien du tout. T'as rien? On ne devient pas aveugle d'un seul coup.
On est au moins deux maintenant.
Oh, mais... Oh,
non!
Quoi?
Non! Va-t'en! Oh, Seigneur, non! T'as touché! C'est contagieux!
Non!
C'est vrai ce que je dis, c'est contagieux!
Non, arrête!
C'est lui qui me l'a donné! C'est contagieux, chérie, va-t'en!
Je vais pas devenir aveugle, je te promets!
Seigneur, j'ai passé la nuit au lit avec toi!
Ça va aller, on va te soigner, ça va aller!
Non, non, désolé!
T'en fais pas!
Je suis désolé!
Ça va aller!
Alors qu'on se rassure, Julianne Moore. Dans le film, parle anglais. Alors, le point commun, c'est effectivement le réalisateur plus le romancier qui sont portugais. Mais évidemment, c'est une production qui a été faite en anglais.
Oui, en anglais, oui. Une production en anglais, donc, avec en partie au Brésil, aux États-Unis et au Japon.
Oui.
Au Canada, pardon. Au Canada et au Japon.
Voilà.
Canadien, japonais et brésilien. Voilà. Et oui, le point commun, c'est le réalisateur Fernando Méreyes qui est le père donc, de la Cité de Dieu et créateur de la Cité des Hommes.
Voilà, donc une série.
Grosse pointure, une série. Voilà.
Autour des favelas à Rio.
C'est ça.
Et donc, l'histoire, hein, on précise assez vite, il y a des personnes qui tombent aveugles, donc là c'est le cas d'un médecin effectivement, sa femme n'est pas aveugle, alors est-ce que le virus va passer? On pense que c'est un virus, de plus en plus de personnes sont aveugles, mais ils voient blanc et pas comme des aveugles si je puis dire, en tout cas on a l'impression que c'est une maladie. Ensuite tous ces gens-là sont mis de côté dans une espèce de quarantaine
oui.
Et c'est là où ça devient intéressant ce film, parce que bien là c'est comment les hommes s'organisent finalement. Qui va faire le chef et ainsi de suite. Ah. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette histoire où quand il n'y a plus de société, plus de règles, qu'est-ce qu'il reste ? C'est un peu l'homme est un loup pour l'homme.
Hein. Absolument, absolument. Et c'est vraiment ça. L'homme est un loup pour l'homme. Et c'est un film que je trouvais assez puissant parce que je l'avais vu avant donc la sélection. On a fait une projection à Paris, donc à l'entrepôt, dans le cadre donc de la première saison Festa Film à Paris. Et c'est vrai que de le voir sur un grand écran, ce film comme ça, c'est vraiment... Il y a plein d'interrogations, plein de choses intéressantes quoi, à voir.
Il y a aussi le problème du rationnement de nourriture.
Nourriture.
Il semble qu'un dortoir en reçoit plus que sa juste part. Alors ce que je propose, c'est qu'on mette sur pied un genre de comité avec un représentant de chaque dortoir.
Qui t'es au juste?
Ouais, qui t'es, toi?
Qui?
Excusez-moi?
Ouais. Ouais, pour qui tu te prends?
Ouais.
À nous donner des ordres comme ça?
Je suis le représentant choisi par le dortoir 1, et je vous suggère de vous choisir votre propre représentant. Autrement, on risque de se sauter à la gorge sans arrêt.
Toi, alors, tu veux parler à notre leader, c'est ça?
Eh oui. Donc, bien voilà, on verra comment ça s'organise. Je vous le recommande. Donc, c'est à 20h40.
20h40 demain. Pour l'ouverture du festival.
Et ce sera Salle Rabelais.
Salle Rabelais.
Alors maintenant, eh bien, on va peut-être, pas forcément rentrer dans le détail, hein, parce qu'on n'a pas toute l'émission non plus, mais on peut parler déjà de cette compétition. Donc, compétition de courts-métrages. Ça veut dire que nous, spectateurs, on va voir des courts-métrages donc, de langue lusophone et puis des courts-métrages francophones.
Francophones, hein, c'est voilà. C'est, cette année, donc, c'est une catégorie qui s'est élargie à la catégorie internationale, donc courts-métrages. C'est 24 courts. Qui sont mis en compétition, donc des films qui viennent du Brésil, du Portugal, du Mozambique, Québec, Belgique, Suisse. Donc c'est un vrai mélange, donc lusophone et francophone. Et voilà, 24 films avec un jury donc, qui décernera les prix à la fin de toutes ces projections.
Ben, on peut parler rapidement du jury. Donc il y a forcément des personnes qui viennent du Portugal.
Du Portugal, donc le président du jury qui arrive ce soir d'ailleurs, Loro Antonio, qui est une grosse pointure du cinéma portugais, très peu connu en France en tout cas. Mais voilà, Loro Antonio qui est critique de cinéma, réalisateur et qui est invité un peu partout dans le monde à travers des festivals pour parler du cinéma portugais ou pour présenter des films à lui. Et cette année d'ailleurs, nous on a choisi de projeter un film qui s'appelle Mania Submersa et qui est un film des années 80 et dont le sujet est très intéressant.
Et puis il y a aussi Ana de Palma, hein, réalisatrice portugaise, dont vous projeterez aussi un film.
Un film sans elle, donc Ana de Palma, ouais, qui est réalisatrice, qui a travaillé avec Bérénice Bejo, avec Michel Larocque, enfin vraiment, donc elle sera là également et pour présenter ce film sans elle et pour en parler. Si,
voilà, donc ça c'est l'occasion de découvrir finalement des réalisateurs. Alors ça a été distribué en France, hein,
ça a été distribué
d'Ana
en France.
Ana de Palma, mais voilà, si vous l'avez raté en tout cas...
Ça sera l'occasion, oui.
Et puis il y a aussi dans le jury alors Katia Maresco, hein, qui est la directrice du festival des très courts,
hein, voilà,
qui se déroule au printemps. Et puis il y a Yves Geland qui est le réalisateur de documentaires
et qui a fait récemment donc le président le film sur documentaire sur Georges Frêche en effet. Il y a également Carlos Pereira qui est directeur d'un journal national donc hebdomadaire bilingue. Il y a Charles Poupeau qui est un jeune réalisateur et travaille beaucoup en tant qu'assistant réal pour la télé, pour Canal+, etc. Et puis il y a également Nadia Person Lopez qui est franco-capverdienne et qui est elle chargée de communication pour le Festival international des très courts.
Du très court. Alors donc il y a ce jury hein, qui va forcément regarder eh bien, cette compétition, c'est 24 films courts. Voilà. Est-ce que le public lui peut voter?
Le public oui, le public peut choisir donc, le meilleur court-métrage. Le prix du public, décerner un prix pour le public. Donc,
soit un film très triste, soit un film très drôle.
Très triste ou très drôle.
Souvent c'est ça.
Mais hein, souvent c'est ça. Oui. Mais jusqu'à présent au festival, par exemple l'année dernière, donc, le jury et le public, ils sont tombés assez d'accord hein, sur les prix, ce qui est...
Plutôt rare,
voilà.
Ouais, je reviens d'un festival où ce n'était pas le cas.
Ouais, voilà.
donc on parlait eh bien, d'Yves Geland et du documentaire. Il y aura aussi un panorama autour de films documentaires, c'est ça ?
Voilà, il y aura trois films documentaires donc, qui seront projetés. Donc, José y Pilar, donc, qui est un film donc, sur l'auteur, hein, sur le prix Nobel de littérature 98, portugais, et sa femme, une tranche de vie entre... une tranche de sa vie pendant la période où il écrivait l'un de ses derniers romans, qui est Le Voyage de l'éléphant. Et donc un film très intéressant, qui est d'ailleurs nominé pour les Oscars du meilleur documentaire cette année. Et donc qui passera au Festafilm avant même de passer aux Oscars.
Alors ça, c'est très vendeur. Donc, voilà. Tu pourrais même donner l'horaire et
voilà,
le jour.
Donc alors.
Mais je sais pas. Moi, j'ai plusieurs horaires, mais on peut recommander aux auditeurs d'aller sur
www.festafilm.com. Et le film, il passe à 20h30 vendredi.
D'accord.
Oui, c'est ça. Hein,
20h30. Je sais pas, mais
parce qu'on a eu pas mal de. On a changé effectivement un peu des choses assez souvent à cause des salles. Puisque c'est un format qui est en DCP, alors il fallait trouver une salle qui puisse le projeter.
En numérique.
En numérique, voilà. Donc c'est le vendredi 2 à 20h30 au Centre Arablais.
Voilà, donc une avant-première.
Une avant-première.
Ça, c'est bien. Voilà, c'est bien pour donc, un festival. Hein. Alors sinon, il y aura aussi des longs-métrages, donc on en a parlé, parce qu'il y a ceux du jury, de ceux qui composent le jury, mais il y en a peut-être d'autres que tu veux mettre en avant ?
Par rapport au court-métrage, oui.
Non, au long-métrage.
Au long-métrage, comme je vous ai dit, il y a José Blindness de Fernando Méndez qui passe donc demain. Il y a également Embargo, qui est un film très intéressant, donc réalisé par Antonio Ferreira, qui a été sélectionné dans pas mal de festivals, qui n'est pas sorti en salle en France encore, et donc qui est de 2010, et qui passera au cinéma Utopia, qui lui aussi, donc ce film est également une adaptation d'un roman de José Saramago. Voilà. Et puis un film à voir, un film documentaire à voir absolument, c'est Matria do Vinho, qui est un film sur le vin au Portugal, la conception du vin et comment ces traditions donc, du vin au Portugal est menacée par pas mal de décisions européennes et tout ça. Donc, il y a un truc qui est prévu à 18h10, vendredi, au Centre Arablais. Ce film sera projeté, rencontre avec le réalisateur Ken Peyton qui sera là, qui est américain, qui a vécu au Portugal, qui a donc fait ce film qui est voilà, très intéressant sur le vin, et il y aura pas mal de représentants du vin de la région à cette projection.
Donc il y aura une dégustation à la fin, non ?
En principe, oui. Voilà.
Donc il y a beaucoup de choses, on en a déjà parlé. Il y a aussi un panorama fenêtre ouverte pour les enfants, panorama fenêtre ouverte ado en cours, donc là voilà. Des courts-métrages.
Alors ado en cours, c'est en partenariat avec Sofim Indépendante de Olivier Vidal. Et donc, on a fait le choix de présenter, de réserver 2 heures de projection pour des films ados, lycée, collège. Et donc, pour les permettre aussi de montrer ce travail. Et avec Sofilm, l'idée, ça sera, avec nos festivals partenaires au Portugal, essayer de faire partir quelques élèves avec leurs films dans ces festivals-là pour en parler. Donc, c'est samedi à 11h. Des films ados qui sont très bien faits d'ailleurs, on pourrait croire que c'est complètement amateur, mais vu que c'est dans le cadre d'une structure qui est professionnelle, assez professionnelle, donc c'est des films de très 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 bonne facture.
Et puis plus ça va, hein, plus les moyens technologiques permettent aussi de faire de bons films avec peu de moyens. Alors sinon, on peut aussi parler de la fenêtre ouverte Languedoc-Roussillon. Donc ça, ce sont des courts-métrages qui ont été tourné dans la région,
voilà.
Tourné dans la région.
Languedoc-Roussillon, pardon, c'est des courts-métrages qui ont été tournés dans la région, filmés dans la région, ou en tout cas faits par des jeunes réalisateurs de la région. Et l'idée, c'est nous, chaque année, de pouvoir réserver un créneau, pouvoir présenter ces films-là au public, permettre à ces réalisateurs de montrer leur travail. Et par la suite, nous envoyons ces films, donc ceux pour lesquels on a eu des coups de cœur, donc au Brésil, au Festival international de Pernambuco, au Festival de Sergipe, et puis à Avanca et à la Biennale internationale de Porto Santo, qui sont des festivals lusophones avec lesquels on travaille et avec lesquels on fait des échanges de films. On fait sous-titrer ces films de la région donc en portugais et qu'on envoie ensuite dans ces festivals-là pour qu'ils passent ou hors compétition ou en compétition. Mais en tout cas, ils sont diffusés. Voilà.
Donc ça veut dire que vous faites un vrai travail d'échange.
D'échange, absolument.
Et de relations.
Et de relations, oui.
Akwe tombo te kambadiam Bundu jose jupangejam Toa tu banetu ni mushima Kene kimosh Yenye wakuvala Yenye yokidi Kidi aishietu Anandenge ondo dimuka Ondo kwenda kiambo tegina Kiambo tonjila Jila yetu Yenye ingi banza Yenye ingi sota Ditale nupe Balu muken Ingi mono mutu kiambo tegina Tuzuelo mbote Tushiko ngoma Tupanga mwangola
Bien, voilà un représentant de la lusophonie, hein, Bonga,
oui, Bonga, oui,
qui est angolais.
Angolais, voilà. Angola.
Et donc, on confirme, hein, c'était bien du portugais, hein, qu'il chantait.
Oui.
espèce de saudade comme ça. Voilà, c'est admirable. Voilà, ben, on va en terminer sur le Festafilm. Tu voulais rappeler quand même.
Oui, je voulais rappeler, moi, voilà, rappeler que Paysage Moral donc, se joue encore ce soir à 19h, c'est le dernier soir. Donc, si vous voulez le voir, c'est maintenant.
Donc, et, Carré Rondelet.
Carré Rondelet à 19h, l'entrée unique est à 10€, et puis sinon, voilà, il y a un tarif à 8€ pour les gens qui sont proches du festival et de Festafilm.
Et sinon, donc, il y a les longs métrages après, donc voilà, Blindness demain de Fernando Méres.
Il y a les longs métrages demain, Fernando Méres, à voir absolument à 20h40, la cérémonie d'ouverture est à 18h30, et puis surtout, un film que je recommande, c'est José Saramago, José Pilar. Donc un film sur José Saramago, donc un peu en avant-première, à 20h30, vendredi 2. Voilà.
Et si on peut résumer, donc le Festafilm, c'est avant tout une compétition de court-métrage, effectivement, avec des choses autour. Il y a une soixantaine de films, hein,
Tout. Bon, il y a 24 films en compétition, et puis le reste, c'est des panoramas qui nous viennent, films qui viennent du Brésil, du Portugal.
Et puis c'est pas cher, on va le dire, c'est combien?
Oui, la séance est à 5€, le tarif réduit à 4, et si vous avez la chance de détenir le pass culture, ça sera 3€ la séance.
Oui, voilà. Donc chers amis étudiants, n'hésitez pas à rencontrer le Festafilm, c'est la 4e édition, donc on peut en parler. Bah, je dirais que ça se bonifie avec le temps, donc c'est de mieux en mieux, il y a de plus en plus de films et de plus en plus de choses à voir.
Oui, il y a de plus en plus de films, plus en plus de choses à voir, beaucoup de volonté de notre part maintenant.
C'est beaucoup de travail, évidemment.
Beaucoup de travail, beaucoup de volonté, maintenant il faudrait que les institutions aillent suivre un peu, financièrement ça serait bien.
Voilà, le message est passé. Merci en tout cas, Ferdinand.
Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, pour plus d'informations, www.festafilm.com.
Et on rappelle que Divergence est partenaire de ce Festafilm.
Cinérama sur Divergence FM.
On passe à tout autre chose maintenant. Alors, c'était déjà il y a 3 semaines. J'ai rencontré Jean-Jacques Hanau, réalisateur de Hors Noir, film qui est sorti la semaine dernière, qui n'est pas un film très très brillant. En revanche, Jean-Jacques Hanau était plutôt tranquille. Il a pris le temps de parler notamment de sa conception du son, puisqu'il faut savoir que Jean-Jacques Hanau refait tous les dialogues en fait en studio. Donc il y a le tournage et ensuite les acteurs reviennent en studio après le tournage et refont tous les dialogues. Et après, donc, on a parlé assez longuement de tout cela et je l'ai illustré dans un montage que je vous propose.
Stalingrad, l'ours, le nom de la rue, j'ai fait la guerre du feu, etc. etc. L'amant, 7 ans au Tibet.
Je suppose que vous devez être très fatigué.
Et du coup, j'ai des bandes son.
Ne m'en parlerez-vous pas comme un ami?
J'ai appris à faire un cinéma qu'on fait naturellement comme ça à Hollywood, où l'on refait la bande-son, tout simplement parce que l'image demande des moyens techniques bruyants qui sont incompatibles avec l'utilisation du son direct. En plus, quand vous faites de la vraie stéréo, vous avez chacun de vos acteurs sur une bande particulière, puisque lorsqu'ils se déplacent sur l'écran, vous allez les panoramiquer. Si vous enregistrez tous les acteurs en même temps...
Mon esprit ne pourrait jamais imaginer des choses si épouvantables.
Vous n'allez pas pouvoir avoir même si vous avez des micro-cravates, la réplique de l'autre va toujours s'entendre. Et donc, du coup, vous êtes obligé de tout placer les acteurs au centre. Et là, dans le film, j'avais tellement de chameaux sur le film ça peut sembler très drôle, mais si vous voulez, un chameau, ça blatère toute la journée. Toutes les 20 secondes. Quand vous en avez 200 sur le plateau, c'est un concert ahurissant. Rajoutez à ça une petite tempête de sable, un avion, des automitrailleuses dans le désert, des coups de feu, des ventilateurs pour raccorder sur les gros plans les plans qui avaient été faits pendant la tempête de sable. Du coup, la bande-son directe est un chaos.
Ah non,
mais dis-le, pourquoi le directeur ça et pas lui ?
Monster !
Et plutôt que de dire, bon, on va tourner sans le vent, ce qui enlève beaucoup de puissance à l'image, où on va faire passer l'automitrailleuse pas dans le champ, mais après, ce qui ralentit le montage, etc., etc., je refais la totalité du dialogue en me concentrant sur l'interprétation et la qualité de la diction. Et du coup, j'ai des bandes-sons. Le nom de la rose a été fait. Il y a une scène qui est restée de l'original. Tout le reste est doublé. L'amant, 100% doublé, Stalingrad... 80%, si vous voulez, c'est une méthode de travail que j'ai.
J'ai l'impression que vous allez m'en faire part.
Pas mal dans leur contrat, c'est-à-dire que les acteurs sont généralement un peu inquiets de ça. Mais quand ils voient qu'ils s'améliorent, alors ils sont très très enchantés. C'est une occasion, si vous voulez, de s'améliorer. Parce que ce qui fait une bonne prise, c'est essentiellement... les expressions du visage, la composition de l'image, la dynamique entre les acteurs. Mais très souvent, sur ces bonnes prises-là, vous avez justement une moto qui passe au mauvais moment et vous avez le son qui est complètement altéré. Et ou bien vous décidez de ne pas prendre cette prise-là parce que le son est mauvais et vous prenez une prise moins bonne. Moi, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a de mieux pour l'image. Et après, je refais un son impeccable avec les acteurs qui, je vous dis encore une fois, je me souviens de Sean Connery, qui... était paniqué à l'idée de refaire la totalité de son rôle. En une semaine, on avait bouclé l'affaire et il était absolument charmé parce qu'il avait amélioré son jeu.
C'est élémentaire.
C'est une manière de faire du cinéma différente. Hein. Heureusement pour les spectateurs, chaque film a son style et chaque nation a ses préférences. Hein. Et effectivement, si vous voulez, il y avait une grande différence aussi entre le cinéma... français du réalisme poétique des années 30 ou des années 50 où beaucoup de choses étaient tournées en studio donc dans de très bonnes conditions sonores.
Je t'aime.
Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est trop beau ça.
Mais quand vous tournez dans des décors réels, vous avez des nuisances. Forcément, vous avez la voisine de palier qui fait marcher l'ascenseur, son aspirateur, vous avez des hélicoptères de la police qui passent, vous avez un tas de trucs. Quand vous êtes en studio, vous pouvez faire un son direct de très, très très bonne qualité, à condition de vérifier que les sols ne couinent pas, que si c'est un sol en marbre, et c'est rarement du marbre qu'on utilise, ça va être un contreplaqué peint à la manière du marbre, mais il faut que ça sonne aussi comme du marbre. Donc il faut faire attention, vous voyez, il y a tous ces aspects-là qui entrent en jeu, mais qui fait que le son des films français aujourd'hui, effectivement, a j'ai envie de dire, la qualité du reportage, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, mais ça ne vous permet pas de faire un son aussi riche et complexe que ce qu'on peut faire dans les films américains. Le son prend à peu près 6 mois, c'est-à-dire qu'il faut que je démarre le son quelques semaines après la fin du tournage. Dès la fin du tournage, les monteurs son regardent les pré-montages de façon à voir les éléments sonores dont ils ont besoin. Et là, par exemple, il avait fallu refaire à Saumur, on est allé refaire des bruits de blindés, de moteurs de tank. Après, on est allé à La Ferté-Alais refaire des bruits de moteurs d'avion qui accélèrent, qui décélèrent, de façon à avoir une sonothèque. Et après, dès que le montage s'affine, ces équipes interviennent, calent les sons, On fait des bruitages de tout ce que nous n'avons pas en direct. Alors, le vieux problème, c'est un claquement de portière. Est-ce qu'on l'enregistre sur une vraie voiture ou est-ce qu'on le fait avec un artifice dans un studio ? Les pas de chameau, est-ce qu'on les enregistre en direct ou est-ce qu'on prend le contraire ? On le fait avec deux tampons de watt sur du sable. Tous les cas sont bons et il y a les deux qui sont utilisés, mais à chaque fois calés très précisément. Et les sons de même nature sont prémixés. C'est-à-dire, grosso modo, vous vous retrouvez avec la bande des dialogues. D'une part, des dialogues directs, parce qu'on en utilise quand même certains. La bande des dialogues de doublage. Quand je dis la bande, les 80 bandes de chaque. Hein. Ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle les effets. Les explosions, les bruits de chenilles. Tout le domaine des bruitages. Quand on verse le thé dans un petit gobelet... c'est généralement du bruitage, ça sera fait plus soigneusement. Ça, c'est un prémixage particulier. Il y a les bandes ambiance, le vent, les oiseaux lointains. C'est une autre nature de son. On réunit tout ça et vient le moment colossal, évidemment, de la bande musique.
Qu'à vous souhaiter la paix.
Voilà, donc c'était les propos de Jean-Jacques Haneau, illustrés par le son, et on terminait d'ailleurs avec une ambiance bucolique qui nous venait tout droit du film L'Ours. Alors autant je ne vous recommande pas forcément Or Noir, donc ce film d'aventure autour de la découverte du pétrole au Moyen-Orient, autant je vous recommanderais, si vous ne l'avez toujours pas vu, Le Nom de la Rose, dont j'ai tiré pas mal d'extraits d'ailleurs pour ce montage. Avant de retrouver Bruce Lee, La Castagne avec Fight Club aussi, et puis la chronique de Marine, Ordre et la Morale, eh bien on va faire une pause musicale, comme on dit. Et comme l'a dit Marine une fois, eh bien on réserve les bandes originales du film symphonique à 24 notes secondes qui suit Cinérama. Nous, on se contente de mettre des musiques actuelles, c'est Chemical Brother, extrait de la bande originale du film Anna. We'll be right back. Voilà, Chemical Brothers. J'ai pris une leçon d'anglais par Bruno, le technicien de Cinérama. Donc, extrait de la bande originale d'Anna.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Et c'est Marine qui va nous parler maintenant de L'Ordre et la Morale, le film de Mathieu Kassovitz.
L'Ordre et la Morale, c'est le nouveau film 100% français, cette fois de Mathieu Kassovitz, qui apparemment a mis un peu de temps à se remettre du catastrophique Babylon AD, sorti en 2008. Un long métrage ambitieux dont le titre initial Rébellion est plus significatif de l'histoire qu'il raconte. En 88, sur l'île d'Ouvéa, une colonie française, un groupe d'indépendantistes kanaks prennent des gendarmes en otage afin de faire valoir leurs revendications. Dépêché en urgence sur le terrain, le capitaine du GIGN Philippe Le Gorgu, joué par Mathieu Kassovitz, compte régler le conflit par la négociation et éviter ainsi les effusions de sang. Mais la France se trouve au même moment en pleine élection présidentielle et l'armée est envoyée sur place afin d'agir de manière nettement plus radicale.
Toute lutte a ses victimes. Et ces morts en font partie. Vous n'avez pas l'intention de tuer.
On n'a pas affaire à des fous furieux, juste à des mecs qui sont mis dans la merde.
Et les Kanaks, qu'est-ce qu'ils te montrent ?
Leur indépendance.
Le gouvernement n'a pas l'intention de se laisser commander par une bande de forcenés.
Tu vas parler ! Enculé ! On fait pas ça, nous ! On tombe pas dans le piège !
Je vois personne essayer de trouver des solutions pacifiques.
À toi de trouver des solutions sur le terrain, mon vieux. Tu peux compter que sur toi-même.
Ne laisse pas tomber.
C'est quoi que tu fasses, tu pourras plus revenir en arrière. Réfléchis bien, mon amour.
Tu devrais pas l'écouter. Il va nous trahir.
En cas de problème, c'est vous qui en assumerez les responsabilités.
En acceptant d'être officier, vous acceptez d'obéir aux ordres. Même s'ils vont à l'encontre de votre morale personnelle. C'est ça, être un vrai soldat.
On retrouve ici ce nouveau genre cher au cinéma français depuis quelques années, le film de réhabilitation, du cinéma militant bien lourdement armé en documentation historique et qui appuie sur les plaies cachées pour déclencher de virulentes polémiques. Entre les erreurs judiciaires enterrées et les faits historiques que la France renie, le cinéma trouve parfaite matière à se poser en justicier des causes oubliées. Déjà entraîné à la chose avec Amen, qui rappelait le rôle pas très catholique qu'avait joué le Vatican dans la déportation des Juifs, Kassovitz endosse à nouveau un premier rôle complexe et lourd de sens, en s'octroyant la difficulté supplémentaire de réaliser lui-même le film et de sortir un peu de ses registres précédents. Au vu des complications induites par le tournage, le film est plutôt convaincant, quoique très engagé, puisqu'il oppose avec manichéisme les militaires sanguinaires aux gendarmes pacifiques, avec un Kassovitz présent à tous les plans qui semble beaucoup s'aimer. Mais n'est pas Kubrick qui veut, en voulant faire un film de guerre rock'n'roll, il verse dans le kitsch à chaque effet de style, un peu de simplicité en plus et beaucoup de plans en moins auraient sans doute servi le scénario. Le climat instauré est en revanche assez réussi, décor de rêve, lumière splendide, caméra bien maîtrisée, le tout sur une musique guerrière des tambours du Bronx. Mais le jeu des acteurs plombe toute cette belle reconstitution. La moitié joue totalement faux et les autres aboient leur texte sans savoir ce qu'ils disent. Il n'en reste pas moins que, sans être un chef-d'œuvre, L'Ordre et la Morale gardent un ton humaniste très juste et défend sa cause avec une force que l'on ne saurait critiquer.
On remercie Marine qui sera à nouveau dans les studios la semaine prochaine.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Il s'entraînait inlassablement pour parfaire sa technique jusqu'à l'épuisement. On disait ses gestes trop rapides pour les caméras. Bruce Lee restera le plus grand acteur d'arts martiaux, loin devant tous ceux qui l'ont imité par la suite, qu'ils soient hongkongais, américains ou européens. Et pendant le Festival des Trois Continents à Nantes, où j'étais la semaine dernière, était projeté Opération Dragon, film de 1974, donc sorti après la mort de Bruce Lee, puisqu'il est mort en 73, me semble-t-il. Et donc cette projection d'Opération Dragon a été faite en présence de collégiens, une classe de 4e, 3e. Et on va écouter, eh bien, notamment un tout petit peu les collégiens, mais surtout Nicolas Thévenin, qui, bien qu'il était censé leur parler de ce film de Bruce Lee.
Donc, on est du collège Victor Hugo, 3e G.
Je suis heureux de voir que ton talent a dépassé le niveau physique. Ta compétence a rejoint ta spiritualité.
Là, vous allez aller voir le Bruce Lee. Donc, Bruce Lee, est-ce que tu connais déjà Bruce Lee?
Pareil, c'est pas mon genre de film. Arts martiaux, tout ça.
Donc, c'est mal parti, alors?
Ah, oui.
Vous vous installez dans le calme. Yeah.
Donc je dis un tout petit mot avant, vraiment une minute, j'interviens après.
Je suis Nicolas Thévenin, j'accompagne la programmation Figure du héros au sein du Festival Les Trois Continents, qui est une programmation à part entière, on pourrait dire, mais aussi peut-être plus spécifiquement dédiée au jeune public. Accompagner une telle programmation, ça veut dire présenter les films en salle, intervenir au terme d'un certain nombre d'entre eux, et puis avant cela, en amont, j'ai rédigé toute la documentation pédagogique sur cette programmation. Et également, je vais à la rencontre des élèves avant le festival pour les préparer un peu à la découverte de ces films. Et je les retrouve après pour revenir un petit peu plus en profondeur sur les films, notamment par le biais de l'analyse de séquences ou la mise en perspective d'extraits.
Ils sont plutôt habitués à avoir des super-héros. Et là, il y a une petite distinction peut-être à faire entre super-héros et héros.
Très souvent, la question du super-héros vient. Le super-héros est un héros qui, comment dire, n'est pas toujours heureux de ses pouvoirs, de ses propres pouvoirs. C'est un héros qui, généralement, est torturé, tourmenté. C'est presque un fardeau pour lui, ses pouvoirs. Exemplairement, Batman ou Spider-Man. Par ailleurs, très souvent, les films de super-héros sont des allégories sur un passage de transition. Spider-Man, c'est le passage à l'âge adulte ou l'entrée dans la vie adulte et toutes les responsabilités qui incombent à cette période. Le héros, lui, en fait, est un héros, en tout cas au sein de cette programmation, plutôt issu du peuple, on va dire. C'est une figure populaire. Et là, Bruce Lee est un cas de figure particulier parce que c'est d'abord un héros de cinéma, tout simplement dans ses capacités martiales, absolument inédites, qui d'ailleurs ne se sont jamais revues après, dans sa rapidité d'exécution des gestes, dans sa capacité à se déplacer dans le cadre. Mais il est aussi plus largement un héros politique, puisque ce film, l'Opération Dragon, est tout à fait symptomatique, cas révélateur des luttes, notamment des minorités ethniques américaines, essentiellement, du début des années 70, les Chinois installés aux États-Unis, mais aussi les Afro-Américains.
Hé, un négro qui a un passeport.
Où est-ce que tu vas, négro? Ce billet d'avion, c'est pour où?
Hong Kong, via Hawaï.
Il ne me tira pas à Hawaï.
C'est la période de Mohamed Ali, c'est la période des Black Panthers, etc. Et la capacité que Bruce Lee a éjecté ses adversaires qui veulent le chasser du cadre, donc le chasser du territoire, à la fois du cinéma et géographique, est une métaphore sur l'autodéfense que devaient pratiquer ces minorités.
On doit se présenter à la cérémonie matinale et en uniforme. Allez-vous-en d'ici.
Donc ça, c'est des choses que vous allez expliquer justement aux élèves, parce que peut-être qu'on s'en aperçoit pas quand on regarde le film. Hein.
Non, je crois pas qu'on s'en aperçoive. Et puis en plus, c'est une lecture relativement neuve de Bruce Lee. C'est-à-dire que les films de Bruce Lee sont diffusés généralement à la télévision, en version française. On les a tous vus quand on était petits. Et il y a quelque chose, effectivement, qui est toujours associé à la bagarre. C'est un film de bagarre, Bruce Lee. C'est sa gestuelle si particulière, héritée du cinéma burlesque aussi, ses petits cris félins, sa musculature impressionnante, son visage, enfin son charisme inouï. Et cette lecture de Bruce Lee, enfin des films avec Bruce Lee, est relativement récente. C'est-à-dire qu'il aura fallu que d'autres types de mise en scène de l'action, de mise en scène des arts martiaux soient passés par là, commencer par exemple par les films de Tsui-Hark avec Jet Li, que d'autres figures martiales un peu plus ternes aient envahi les écrans pour que le regard sur Bruce Lee se soit modifié. Et puis bon, après ça veut dire aussi, on est un peu plus d'une génération d'écart, on est à presque deux générations d'écart, parfois c'est aussi ce qu'il faut pour avoir suffisamment de recul sur l'histoire. Alors là, on est à la fois sur l'histoire du cinéma, mais aussi sur l'histoire avec un grand H.
Et à quoi penses-tu devant un adversaire?
L'adversaire n'est pas là.
Et pourquoi cela?
Parce que son image
n'existe pas.
On l'a dit, les jeunes sont plutôt intéressés par les super-héros. Hein. Ça, ce sont les gros blockbusters américains qui déboulent en France. Là, on a fait la distinction super-héros-héros. Et là, on se retrouve aussi en décalage. Hein, vous l'avez dit, au moins deux générations entre bien les habitudes de cinéma de ces jeunes là, qui sont en train de voir Opération Dragon et puis le moment où est sorti Opération Dragon. Et on peut se dire qu'il n'y a pas eu forcément de transmission. Alors peut-être avec la télé, mais voilà. Quel regard, finalement, ils peuvent avoir sur un film qui est daté, avec une image datée, avec toute une forme datée.
Peut-être que le regard qu'ils portent sur Bruce Lee est passé notamment par l'intermédiaire des jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo de combat, en fait, mettent toujours un personnage qui soit est Bruce Lee lui-même quand la licence a été accordée, parce que Bruce Lee, c'est devenu une marque entre-temps, un logo, soit qui est un clone de Bruce Lee, hein, très précisément. Alors moi, j'ai joué à ces jeux, mais je serais incapable de me rappeler des titres. Il y a toujours un personnage, en fait, qui est dans la même démarche, dans la même attitude, dans la même posture, dans la même façon de donner des coups que Bruce Lee. Voilà, après, je pense que la quasi-totalité du jeune public ici découvre ce film à connaissance de Bruce Lee, mais on a une connaissance mythologique ou légendaire, en fait. C'est-à-dire ne connaît pas sa vie, réellement, le contexte précis dans lequel se déroule le film, et une image de Bruce Lee, peut-être, oui, comme un bagarreur de rue. En fait, c'est marrant, je regardais, il y a un certain nombre de programmes où le film est présenté. Je ne sais plus où j'ai vu ça, le film est présenté comme étant un film de karaté. Karaté, c'est une appellation générique pour déterminer tous les films d'arts martiaux qui sortaient à l'époque, etc. Donc voilà, les élèves pensaient qu'ils allaient voir un film de karaté. Tout l'enjeu, en fait, c'est d'essayer de leur faire aller au-delà de cette première lecture et au-delà de l'immédiat aspect bagarre. Je ne sais pas si je vais commencer par ça, mais ce que je vais leur raconter, c'est que la séquence finale d'Opération Dragon, celle qui est en train de se dérouler devant mes yeux à l'instant, la fin du film, dans cette sorte de galerie des glaces, est un symbole de la vie de Bruce Lee qui était lui-même diffracté, c'est-à-dire à mi-chemin entre Hong Kong et les États-Unis. Et puis c'est aussi une scène qui renvoie à plusieurs autres séquences connues de l'histoire du cinéma, notamment la fin de La Dame de Shanghai d'Orson Welles et le début du film Le Cirque de et avec Charlie Chaplin. Et d'ailleurs, il y a une correspondance assez nette à faire entre le personnage de Charlot et celui de Bruce Lee.
Alors, c'était comment ?
Pas trop bien.
Ah, c'était non,
pas
bien. Bon.
C'est très bien, ouais.
Ouais. C'est le meilleur film de la journée.
Et voilà, donc comment rapprocher Bruce Lee de Chaplin et puis d'Orson Welles. C'est un reportage donc qui venait de Nantes pour le Festival des Trois Continents. Et on va continuer avec La Castagne. Je vais vous faire réécouter, si vous êtes des auditeurs fidèles, un petit montage autour de Fight Club, le film de David Fincher sorti en 99 avec Brad Pitt et Edward Norton. C'est de La Castagne, mais c'est encore autre chose.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Nous sommes aux premières loges de ce théâtre de destruction massive. Le comité de démolition du projet KO a entouré de gélatine explosive les piliers des fondations d'une douzaine de bâtiments. Dans deux minutes, les charges primaires feront sauter les charges de soubassement et quelques blocs d'immeubles seront réduits en gravats fumants. Je le sais, parce que Tyler le sait.
La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ».
Bob s'était pris d'affection pour moi parce qu'il pensait qu'à moi aussi on m'avait enlevé les testicules. Et elle a tout foutu en l'air.
Les cancers.
Cette gonzesse, Marla Singer, n'avait pas de cancer de testicules. Et c'est important pour moi tout ça. Ce sont mes groupes et je les fréquente depuis plus d'un an.
Pourquoi toi tu le fais ?
Je sais pas. Quand les gens croient qu'on est mourant, ils écoutent vraiment ce que l'on dit au lieu
d'attendre que ce soit leur tour de parler.
Hein ?
Personne ne veut faire l'amour avec moi. Je suis tellement proche de la fin que tout ce que je veux, c'est qu'une dernière fois quelqu'un me fasse l'amour. J'ai des films porno dans mon appartement et j'ai aussi des lubrifiants et des aphrodisiaques.
La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ».
Sur une durée suffisamment longue, l'espérance de vie tombe pour tout le monde à zéro. J'étais technicien de rappel en usine. Mon travail consistait à appliquer une formule mathématique.
C'est là que le bébé a traversé le pare-brise. 3 points.
Une voiture neuve construite par ma société roule aux alentours de 90 km/h. Le différentiel arrière se bloque.
Bah, l'appareil dentaire de la gamine s'est encastré dans le cendrier arrière. Ça pourrait faire une bonne pub anti-tabac.
La voiture se crache et prend feu avec toute la famille à bord. Question, faut-il déclencher un rappel de ce modèle ?
Le père était sûrement très gros. Vous voyez l'endroit où la graisse a brûlé sur le siège avec sa chemise en polyester ? Ça fait très art contemporain.
prendre le nombre de véhicules concernés, A, le multiplier par le taux probable de défaillance, B, puis multiplier le résultat par la moyenne des sommes qu'on a été condamné à verser, C, A multiplié par B multiplié par C égale X. Si cet X est inférieur au coût d'un rappel, on ne fait rien.
On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Meurtre, banditisme, pauvreté, ces choses ne me concernent pas. Ce qui me concerne, ce sont les revues qui parlent des stars. La télévision avec 500 chaînes différentes, les slips avec un grand nom marqué dessus.
Laissez-moi vous parler un peu de Tyler Durden. Tyler était un personnage nocturne. Pendant que nous étions occupés à dormir, lui, il travaillait. Il avait un emploi à mi-temps, comme projectionniste. Et voyez-vous, un film ne se trouve pas sur une seule grande bobine, il y en a plusieurs à la suite. Alors il faut que quelqu'un soit là pour faire muter les projecteurs à l'instant précis où une bobine se termine et où l'autre commence. Si vous observez attentivement, vous verrez des petites taches dans le coin supérieur droit de l'image.
Dans le métier, nous autres, on les appelle des brûlures de cigarettes.
C'est le signal qui lui dit qu'il faut changer de bobine. Il permute les projecteurs, il n'y a pas d'interruption et strictement personne ne remarque quoi que ce soit.
Qu'est-ce qui peut bien motiver quelqu'un pour faire ce boulot de merde?
C'est parce que ça lui fournit la possibilité de choses plus intéressantes.
Comme d'insérer quelques images pornographiques dans des films pour la famille.
Et quand le chat arrogant et le chien courageux qui parle avec des voix de star se voient pour la première fois dans la bobine 3, c'est là qu'on a un bref aperçu de la contribution de Tyler au film. Personne ne le sait, mais ils l'ont tous vu.
Une belle grosse queue.
Doit être plus rapide que l'éclair pour voir son travail.
La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ».
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te frappe?
Allez mec, rends-moi ce petit service.
Pourquoi?
Mais j'en sais rien. Je me suis jamais battu, et toi?
Non, mais c'est une bonne chose.
Non, pas du tout. Comment tu peux te connaître si tu t'es jamais battu? Je veux pas mourir sans cicatrice. Allez, viens, frappe-moi avant que j'en ai plus envie.
Oh, de Dieu... Chaque semaine, Tyler répétait le règlement que nous avions élaboré à deux.
La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club
». Les saloperies qu'elle m'a sorties, j'en avais jamais entendu des comme ça.
Mon Dieu, on ne m'avait plus baisé comme ça depuis l'école primaire.
Comment Tyler n'aurait-il pas été séduit? La veille au soir, il avait inséré des images d'organes sexuels dans le film Cendrillon.
Marla n'a pas besoin d'un amant, mais d'une assistante sociale.
Elle a besoin d'une douche. C'est pas de l'amour, c'est du bésodrome.
Les choses qu'on possède finissent par nous posséder.
Tu dois admettre qu'il est possible que Dieu ne t'aime pas du tout. Il ne t'a jamais voulu. En toute probabilité, il te déteste et ce n'est pas ce qui peut t'arriver de pire.
Oh là, tu crois?
On n'a pas besoin de lui, mec.
Oh oui, c'est vrai.
On n'en a rien à foutre de la damnation ni de sa foutue rédemption. On est les enfants non désirés de Dieu. Très bien.
J'ai besoin d'envie.
Écoute, tu peux faire couler de l'eau et ça ne fera qu'empirer les choses. Ou regarde-moi. Ou tu peux mettre du vinaigre pour neutraliser la brûlure.
Mais lâche-moi, je t'en prie.
Mais il faut que tu capitules d'abord. Il faut que tu saches, au lieu d'en avoir peur, que tu saches que tu mourras un jour.
Je ne sais pas ce que ça fait.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et nous sommes arrivés maintenant à l'agenda de Cinérama. On commence avec demain. Alors, entre autres, il y aura bien évidemment le Festafilm. Rebonjour Ferdinand qui déboule dans le studio. Mais il y aura aussi donc une soirée plein écran. Demain, c'est la quatrième avec Playtime de Jacques Tati qui sera joué au Diagonal. Une séance présentée par Jean-Philippe Tria qui est enseignant en cinéma à l'Université Montpellier 3. Ensuite, le vendredi 2 décembre à 18h, toujours au Diagonal, une avant-première, c'est le dernier film de Roman Polanski, Carnage, qui réunit Jodie Foster, Kate Winslet et Christophe Waltz. C'est une espèce de huis clos, ça m'a l'air plutôt intéressant. Ensuite, on passe au lundi 5 décembre à 19h45, c'est l'avant-première de Tahrir, Place de la Libération de Stefano Savona. Et la productrice sera présente. Et il y aura aussi Julien Bouffier qui sera présent dans le cadre de Hybride. Un festival qui a lieu plutôt au printemps. Je ne sais pas ce qu'il dira là-dessus, mais en tout cas, il parlera. Et ça, c'est au Diagonal. Le mardi 6 décembre, enfin, à l'Utopia, c'est la splendeur des Amberson d'Orson Welles. C'est dans le cadre du Ciné Campus. Et on précise qu'à l'Utopia, il y a toujours Donoma, Drive, Embargo, et maintenant, on va où? Gig, L'Exercice de l'État, Le Cochon de Gaza, Le Gruffalo, Les Géants, Les Marches du Pouvoir, Police et The Artist. Film dont on a déjà parlé dans les précédentes émissions de Cinérama.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Tu
ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Vous retrouvez le podcast de cette émission sur www.divergence-fm.org, la rubrique Cinérama. On retrouve Marine donc la semaine prochaine, et c'est tant mieux. Et puis voilà, et bien bon cinéma à tous, et merci à Bruno à la technique.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.